On avait parlé la dernière fois de considérer une personne en colère pour nous permettre justement de ne pas répondre par le tort, pour ne pas répondre à l'agressivité, pour ne pas rendre les coups vis-à-vis d'une personne qui nous cause du tort, qui a une conduite qu'on trouve répréhensible vis-à-vis de nous, qui nous parle mal, etc. Pour nous permettre de ne pas développer de la colère à son égard, de ne pas développer de... Je sais pas pourquoi, il y a des traits qui se... Pour ne pas développer d'aversion à son égard, de colère à son égard, on nous invite à considérer que cette personne, en fait, n'est pas libre. Elle ne se... Alors, il y a différents exemples qui sont utilisés. Par exemple, le fait de considérer que la personne est sous l'emprise de ses émotions, de la considérer comme ivre, comme sous l'emprise de l'alcool. Quelqu'un qui est sous l'emprise de l'alcool, on comprend très bien que cette personne n'est pas maître d'elle-même. Et si on comprend ça, on peut, même si on peut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour l'empêcher de nuire ou l'empêcher de se nuire à elle-même, on ne va pas développer véritablement de la colère ou de l'irritation à son encontre parce qu'on comprend qu'elle n'est pas, elle ne sait pas ce qu'elle dit, elle ne sait pas ce qu'elle fait, elle n'est pas maître d'elle-même. Et donc, du coup, parce qu'elle est sous l'emprise de l'alcool, on pourrait avoir ce même raisonnement avec quelqu'un qui est sous l'emprise de... qui est folle, par exemple. Une personne qui est instable psychologiquement ou qui est malade psychologiquement, de comprendre qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait, qu'elle et donc notre attitude va sera vraiment différente vis-à-vis de cette personne-là parce que on ne sera pas animé par la colère et la haine, bien que on puisse trouver légitime de répondre à la situation. Et il y a une phrase donc de Donc là, sur le dessin, j'ai illustré un homme qui frappe quelqu'un avec un bâton. C'était pour illustrer donc cette stance qu'on trouve dans la marche vers l'éveil, où Shantideva dit: « On ne s'irrite pas contre le bâton, auteur immédiat des coups, mais contre celui qui le manie. Or, cet homme est manié par la haine. C'est donc la haine qu'il faut haïr. » Attendez, je vais couper le micro parce que il y a quelque chose, il y a un micro que j'entends en fait. Bon, ça y est, je n'entends plus. Voilà, comprendre qu'en fait, une personne qui manifeste de l'agression à notre égard ou à l'égard de quelqu'un d'autre n'est pas maître d'elle-même. Elle est sous l'emprise de ses émotions. On nous invite à voir que quand quelque chose se manifeste, en fait, il y a forcément des causes et des conditions. Ce qu'on voit d'emblée, c'est un homme en colère. Ce qu'on voit d'emblée, c'est quelqu'un qui nous cause du tort. C'est quelqu'un qui est, voilà, on va volontiers considérer que cette personne, ben voilà, ce qu'on voit, c'est un homme méchant ou un homme qui est colérique, etc. Et du coup, on ne voit pas la racine du problème. On ne voit pas profondément. Ce qu'on nous invite à faire, c'est de voir que derrière l'apparence de l'homme à colère, il y a tout un tas de facteurs, il y a tout un tas de causes et de conditions. Il y a plein d'éléments qui agissent, qui sont à l'œuvre à ce moment-là pour que cette personne manifeste de la colère à notre encontre. On peut facilement comprendre que quand on manifeste de la colère, c'est pour ça la dernière fois je vous disais c'est intéressant de faire cet exercice, pas forcément vis-à-vis d'abord avec une personne qui manifeste de l'agressivité à notre égard, mais plutôt de le faire d'abord avec nous et avec les personnes avec qui qu'on côtoie au quotidien et puis qu'on connaît bien, par exemple nos proches, les gens qu'on aime, etc. De voir que finalement, quand on s'écoute parler, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, quand on connaît bien la personne, de voir que c'est toujours le fruit de causes et de circonstances. C'est toujours le fruit d'habitudes, de tendances, de conditionnements, de schémas de réaction. De voir que quand quelqu'un. C'est intéressant en fait d'écouter les conversations de ce point de vue-là, de voir que quand on écoute les conversations, quand on écoute les gens parler, que tout ce qu'ils disent, en fait, c'est le fruit de conditionnement. C'est une pensée qui naît à ce moment-là. Il y a une situation qui se met en place et quand on connaît bien la personne, on sait que telle situation, eh bien, elle va dire ça. Telle circonstance, elle va dire ça. Et puis, on connaît sa façon de réagir. On connaît ses points de vue, mais que tous ces points de vue, toutes ces façons de voir, toutes ces opinions, en fait, sont le fruit de causes et de circonstances. Ça peut être l'éducation, ça peut être le contexte dans lequel elle a grandi, ça peut être les lectures qu'on a eues, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a écouté, tout ce qu'on appelle la personnalité, en fait, c'est quelque chose qui est profondément conditionné. Quand on dit cette personne est comme ça, c'est sa personnalité. En fait, quand on fait ça, on a vraiment tendance à scléroser, à scléroser la personne dans une identité figée, qui ne prend pas en compte le fait que ce que nous sommes évolue constamment. Quand on dit mes opinions, mes pensées, en fait, quand on regarde profondément ce qu'on appelle nos pensées, nos opinions, c'est quelque chose qui fluctue. Et la plupart du temps, c'est les opinions d'un autre. Ça vient en fait, même dans notre façon de parler, notre façon de faire, notre façon de dire les choses, en fait, ça vient de tout un héritage. Notre éducation, nos amis, ce qu'on a vécu, ce qu'on traverse dans la situation actuelle, nos peurs, nos craintes, nos émotions, ce qu'on écoute à la radio, même en ce moment, c'est très important. C'est très intéressant en fait, de voir comment les opinions des gens changent. Un jour, ils disent ça, et puis le lendemain, ils disent exactement l'inverse parce qu'ils ont écouté telle ou telle émission ou telle info à la radio qui font qu'ils changent totalement d'opinion, mais qu'on continue à dire bah, c'est ma façon de penser, c'est mes opinions, etc. De voir que tout ça, en fait, ça n'a rien de solide. Et ça va être d'autant plus important, d'autant plus intéressant. Alors, il n'y a rien de. Comment dire? Il n'y a rien de condescendant à regarder les choses comme ça. Parce qu'on pourrait se dire, ben voilà, regarder les choses comme ça, c'est un petit peu réduire la personne à un enchaînement de causes et de conditions. D'un côté, ce n'est pas faux. Nous sommes on va dire, un ensemble de circonstances, de causes et de conditions qui font qu'on se manifeste sous cette forme-là à l'instant présent. Et puis l'instant suivant, on va aussi changer. Mais ce qu'il faut le regarder, c'est en termes de richesse, en fait. Que quand on voit une personne, au lieu de la limiter à une personnalité, de voir que derrière une personnalité, derrière la manifestation de cette personne, que ce soit ce qu'elle dit, ses opinions, ce qu'elle fait, etc., en fait, c'est une grande richesse. C'est ça qu'il faut voir. C'est voir. Toute la richesse qu'il y a derrière cette personne, que c'est pas une personne en fait, c'est l'héritage de ses parents, des parents de ses parents, de tout son arbre généalogique, de toutes les influences qu'elle a pu recevoir à droite et à gauche, de tout ce qui lui a été transmis de part et d'autre, par ses proches, par ses amis, par ses expériences, etc. Que il y a tout ça, qu'il n'y a pas une personne en face de nous et quand on voit par exemple une personne qui se met en colère contre nous ou qui a une attitude qu'on trouve désagréable, qui ne nous satisfait pas, avec laquelle on n'est pas d'accord, etc., de la résumer à cette personne, elle est ennuyeuse ou cette personne, elle est colérique ou cette personne est insupportable, en fait, c'est pas voir en fait tout l'univers qu'il y a en fait, derrière cette manifestation. Il n'y a pas une personne. n'y a pas un méchant derrière tout ça. En fait, il y a derrière celui qui se met en colère, qui
Merci.
fait des propos blessants, etc., il y a plein d'éléments. Il y a tous ses conditionnements, il y a tout ce qu'elle a vécu, il y a ce qu'elle est en train de vivre en ce moment. Peut-être que cette personne, elle est en train de vivre quelque chose de difficile. Peut-être qu'elle a perdu un proche récemment. Peut-être qu'elle a un chagrin d'amour. Peut-être qu'au travail, ça ne va pas. Peut-être qu'elle a vécu des choses difficiles dans son enfance. Peut-être que ce qu'on lui renvoie, en fait, il y a tous ces conditionnements qui agissent et qui font qu'en fait, elle agit comme ça. Mais elle n'est pas, y a pas, elle ne choisit pas d'agir comme ça. Elle agit comme ça sous l'emprise de la souffrance, sous l'emprise de ses émotions négatives, etc.
Organe,
Oui.
persona en grec, c'était le masque.
Ah bah oui, bah c'est intéressant.
Voilà.
Persona, le masque. Bah effectivement, ouais. On
Donc c'est
endosse.
juste l'extérieur, quoi.
Ouais, on endosse des rôles.
Conditionné par l'extérieur. Voilà.
Ouais, et donc bah, ce masque, il va. En fonction des circonstances, il va changer. Et quand on voit une personne, quand on comprend ça, quand on arrive à voir que derrière la manifestation de cette personne, il y a tous ces éléments-là, toutes ces causes et les conditions qui se mettent en place, ben, il n'y a plus aucune raison de s'irriter contre un méchant. Parce que ça n'aurait pas de sens de s'irriter contre tous les facteurs qui se mettent en place pour que cette manifestation soit ce qu'elle est, c'est-à-dire quelqu'un qui nous cause du tort à première vue. Plus on comprend les choses clairement, plus on voit les choses comme ça, c'est-à-dire la réunion de facteurs, la réunion d'éléments qui naissent de causes et de conséquences, plus il y a de la compassion, parce que plus il y a de la compréhension, on ne se sent pas blessé, on ne trouve pas, comment dire, il n'y a plus de raison de se sentir blessé, parce qu'on comprend que ce n'est pas pertinent, quand on voit les choses comme ça, qu'il n'y a pas de raison en fait d'être blessé par toute cette conjonction de facteurs, de causes et de conditions, qu'il n'y a rien contre quoi s'irriter précisément. Et donc, du coup, bah, on voit que ce qu'on voit, c'est la souffrance de la personne. Les causes et les conditions qui font que cette personne n'est pas libre de ce qu'elle dit, n'est pas libre de ce qu'elle fait, et qu'il n'y a rien de prémédité là-dedans. Il n'y a rien de totalement prémédité. Cette personne n'a pas choisi délibérément de se mettre en colère. C'est les causes et les conditions qui font que, bah oui, cette émotion naît dans l'esprit et se traduit par des actes, des paroles, etc. C'est pour ça que je fais le lien avec la compassion. La compassion, c'est que à partir du moment où on est à même de voir les choses comme ça, il n'y a plus rien qui puisse vraiment nous blesser. Parce qu'on voit les choses telles qu'elles sont. Et à partir du moment où on ne se sent plus blessé, peu importe comment la personne se comporte, parce qu'on voit qu'en fait, ce n'est pas un méchant, entre guillemets, plus on se sent libre. Et donc, du coup, ce qui nous habite, c'est la volonté de résoudre le problème, c'est-à-dire de trouver une solution à ce problème, à cette souffrance. Parce qu'on pourrait dire, bah oui, mais alors à ce moment-là, si tout n'est que le résultat de causes et de circonstances, bah à ce moment-là, il n'y a rien à faire. Et donc, du coup, je regarde les choses s'élever. À quoi bon, du coup, réagir? À quoi bon faire quoi que ce soit? Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que si la souffrance naît de causes et de conditions, eh ben, il y a toujours moyen de travailler sur justement les causes, d'introduire de nouvelles causes, d'anéantir les causes qui vont être source de souffrance, et puis d'introduire des causes qui vont être source de mieux-être, d'amélioration, etc. Simplement, on n'est plus focalisé sur la personne qui nous cause du tort, mais on voit la chose de manière plus globale. Une situation qui est plus vaste, une situation qui. Voilà, on voit les choses avec une perspective plus vaste et en plus on les voit en gardant quelque part la tête hors de l'eau parce qu'on n'est pas empoisonné par l'irritation, la colère, le ressentiment, etc. C'est pour ça qu'on nous dit que dans la patience, il est important, quand on dit ne pas répondre à la colère par la colère, ne pas répondre à l'irritation par de l'irritation, on parle aussi de ressentiment. Si véritablement on est dans la vue, dans cette sagesse qui nous permet de voir à l'œuvre ces causes et les conditions qui se mettent en place derrière une apparence de quelqu'un qui nous cause du tort, si on est capable de le voir comme ça, il y a même plus besoin de nourrir de ressentiment. C'est important que les enseignements nous parlent, mettent un mot sur le ressentiment. Ça nous permet de savoir que si on a du ressentiment, c'est-à-dire même si effectivement on s'est montré patient, on n'a pas répondu par l'irritation ou par l'agression en retour, s'il y a du ressentiment, c'est qu'on ne touche pas encore à la patience. Parce que le ressentiment, ça traduit le fait qu'à un moment donné, on s'est laissé blesser. C'est-à-dire, il y a de notre part une saisie de quelqu'un qui nous veut du tort, qui nous veut du mal, qui veut absolument qu'on soit malheureux. Et donc, du coup, on est encore en train de, quelque part, de voir le problème à l'extérieur de nous-mêmes. D'où ce ressentiment. Voilà, c'est bénéfique en fait de pouvoir le détecter en fait. Qu'on sache que si on a du ressentiment, bah déjà qu'on le sache, qu'on en prenne conscience, il y a du ressentiment. Et donc du coup, à partir du moment où on le sait, de voir que le ressentiment est aussi un poison, est aussi quelque chose qui va nous poser problème. S'il y a ressentiment, c'est le symptôme. Qu'il y a encore de la confusion dans notre esprit, qu'on ne voit pas les choses clairement, et que s'il y a du ressentiment, il faut y remédier, il faut faire quelque chose, parce que tôt ou tard, ça va nous poser des problèmes. Qui dit ressentiment dit poison, au même titre que le mécontentement, l'irritation, la colère, etc. Et plus on va travailler de cette façon-là, c'est-à-dire apprendre à développer, apprendre à comprendre d'abord que la colère est un poison et que c'est un faux ami qu'il faut pacifier, qu'il ne faut pas se laisser aller à la colère. Ensuite, apprendre à travailler la patience à travers les circonstances pénibles. Et puis ensuite, en y intégrant la sagesse, c'est-à-dire voir les choses de manière plus profonde. Ne pas se fier aux apparences telles qu'elles sont, mais de voir que derrière ça, il y a le jeu des causes et des circonstances qui se mettent en place, le jeu de l'interdépendance des phénomènes, etc. Plus on va être à même d'avoir une patience, plus on va être à même de toucher à la paramita de la patience. Et ça va nous permettre de comprendre aussi pourquoi certains bodhisattvas font preuve d'une attitude qui, à première vue, nous semble inaccessible. Je vous avais sans doute parlé de Kshantivadin. Kshantivadin, donc c'est une histoire qu'on trouve dans les Jatakas, c'est-à-dire les vies antérieures du Bouddha. À l'époque, le Bouddha était un ascète, un ermite qui vivait dans une forêt, et donc qui s'appelait Kshantivadin. Kshanti, c'est la patience. Vadin, c'est celui qui pratique la patience. Et Kshantivadin méditait dans une forêt, et puis un jour, un roi vient se promener, vient chasser dans cette forêt, accompagné de ses rennes, ses centaines de rennes. Et pendant qu'il va chasser, les rennes font la cueillette. Et quand le roi revient, il trouve pas ses femmes. Alors donc du coup, il commence à être irrité. Où est-ce qu'elles sont, etc. Et puis il cherche, et il les trouve en train d'écouter Kshantivadin. Et voilà, pendant qu'elles cueillaient, elles sont tombées sur lui dans une clairière. Et puis comme sa présence irradiait de dignité, de noblesse, elles se sont assises autour de lui, et puis elles ont écouté son enseignement. Et donc quand le roi voit ça, il se met en colère et puis il va voir Chantivadi, il lui dit dis donc toi, qui es-tu et puis pourquoi tu me voles mes femmes? Et Chantivadine lui répond, ben voilà, je suis Kshantivadine, donc celui qui aime pratiquer la patience. Et puis, je t'ai pas volé tes femmes, elles sont venues d'elles-mêmes. Et donc, le roi, super furax, lui dit, ah bon, t'aimes bien pratiquer la patience? Ben écoute, on va voir ça. Et puis, il commence à tirer son sabre et lui tranche un membre. Il lui tranche le bras. Là, on le voit en fait sur la, sur l'image, c'est le personnage qui est à gauche de l'image. Et Kshantivadin lui dit alors donc le roi lui dit et alors la patience elle en est où là? Et Kshantivadin lui dit bah écoute je te suis reconnaissant parce que non seulement je t'en veux pas mais en plus tu me permets de pratiquer la patience qui me permettra d'atteindre l'éveil et donc du coup je te suis très reconnaissant pour ça. Et il est tout il reste tout serein, joyeux, etc. Donc le roi, ça le met encore plus furax et il décide de lui trancher les autres membres. Et donc il lui dit, et alors, et maintenant, qu'est-ce que t'en penses de la patience, etc. Et là, Kshantivadin, loin d'être perturbé, il se montre tout aussi serein et en plus il dit au roi, écoute, non seulement je ne t'en veux pas, mais en plus, je te fais la promesse que par cet acte que tu viens de faire et qui me permet en fait qui sera la cause qui me permettra de devenir Bouddha, le jour où je serai Bouddha, tu seras le premier de mes disciples à comprendre l'enseignement et à réaliser l'éveil. Et c'est pour ça que, et donc, suite à cet incident, le roi est totalement bouleversé. Et il se prosterne aux pieds de Kshantivadin et puis il finit par suivre ses enseignements. Et cette histoire, le Bouddha l'a racontée justement à ses disciples. Il lui disait, mais pourquoi machin, c'est le premier à avoir atteint l'éveil? Et donc le Bouddha raconte en fait cette connexion qu'ils ont eue dans cette vie antérieure. Voilà, et donc Kshantivadin, c'est vraiment donc cette histoire du Bodhisattva, du Bouddha à l'époque où il était le Bodhisattva Kshantivadin, est souvent utilisé pour illustrer la paramita de la patience. À partir d'un moment, à un certain degré, le Bodhisattva n'éprouve absolument plus d'irritation, de haine envers les gens qui lui causent du tort. Au contraire, ça devient autant d'occasions en fait, de pratiquer la patience et il devient même reconnaissant vis-à-vis de ses ennemis. Alors ça va être un. Ça va être une étape aussi dans la pratique de la patience, c'est qu'au bout d'un moment, on devient suffisamment entraîné pour non seulement considérer, pour non seulement ne plus avoir, ne plus trouver pertinent de s'irriter contre les gens qui nous causent du tort, parce qu'on en voit on en voit la cause profonde, mais en plus, le bodhisattva finit par cultiver de la reconnaissance vis-à-vis de ses ennemis, en comprenant que pour pouvoir réaliser la patience, c'est-à-dire réaliser l'éveil, on ne peut le faire que si on a de l'adversité, que si on a matière à pratiquer la patience, que s'il y a un support pour pratiquer la patience. S'il n'y a personne pour nous irriter, on n'aura jamais l'occasion de pratiquer la patience. Donc voilà, c'est. Je vais vous lire juste quelques stances dans lesquelles Shantideva en parle. Alors, Là encore, hein, je rappelle qu'il se parle à lui-même, il n'est pas en train de faire la leçon. Il se parle à lui-même, donc par rapport aux personnes qui lui causent du tort. Donc ceux qui se lèvent pour détruire ma réputation n'ont d'autre fonction que de me préserver des lieux de tourment. Les biens et les honneurs sont une chaîne qui ne convient pas à mon désir de libération. Ceux qui me délivrent de cette chaîne, comment pourrais-je les haïr? Je l'ai pénétré dans la douleur. Ils sont comme une porte fermée, placée devant moi par les bénédictions des Bouddhas. Comment pourrais-je les haïr? Mais mon ennemi entrave mes bonnes œuvres. Mauvaise excuse au ressentiment, car il n'est pas d'ascèse comparable à la patience, et c'est celle dont il m'offre l'occasion. C'est par ma faute que je ne pratique pas la patience envers lui. C'est moi qui place l'obstacle devant la bonne œuvre mise à ma disposition. Un ennemi acquis sans effort, c'est un trésor surgi dans la maison. Il doit m'être cher, cet auxiliaire de ma carrière spirituelle. Nous avons droit tous deux au fruit de la patience, mais c'est à lui qu'il doit être offert le premier, puisqu'il est la cause première de ma patience. Mon ennemi n'a pas l'intention de perfectionner ma patience. Il ne mérite donc pas que je l'honore. En fait, il débat avec lui-même. C'est comme s'il se trouvait des contre-arguments. Donc il dit, mon ennemi n'a pas l'intention de perfectionner ma patience. Il ne mérite donc pas que je l'honore. Mais alors pourquoi honorer le Dharma, qui n'est que la cause inanimée de ton perfectionnement? Mais il a dessein de me nuire. Je ne saurais honorer mon ennemi. Comment pratiquerais-tu la patience si, comme un médecin, il se dévouait à ton bien? C'est son hostilité qui conditionne la patience. Et cette cause de la patience, tu dois l'honorer comme le Saint Dharma. Bon, c'est une vieille traduction, hein. C'est quand même un langage. Je me dis, c'est peut-être difficile à suivre comme ça, en audio. Donc, pour finir, donc dans le précieux ornement de la libération de Gampopa, il nous fait un résumé de ce qu'est la pratique de la patience. Il dit, qu'entend-on par supporter, donc c'est-à-dire pratiquer la patience, ne pas s'irriter, ni répondre par le mal, ni garder rancune. Et donc il cite Shantideva. On devient patient lorsqu'on comprend, un, que ceux qui nous nuisent ne sont pas maîtres d'eux-mêmes, deux, que la faute revient à notre karma, à notre corps et à notre esprit, que tout le monde est coupable au même degré, qu'en fait ceux qui nous nuisent nous aident, qu'ils sont d'une grande bonté pour nous, que leur patience réjouit les Bouddhas, que les bienfaits de la patience sont immenses. Bon, en fait, je ne vais pas détailler. Rapidement, en fait, donc le premier point, on est patient quand on comprend que ceux qui nous nuisent ne sont pas maîtres d'eux-mêmes, ça on l'a déjà évoqué, que la faute revient à notre karma. Donc dans ce point-là, il est dit dans les textes que si on rencontre de l'adversité, en fait, de comprendre que la cause ne vient pas de l'extérieur, elle vient de notre karma, des actes qu'on a commis dans les vies passées ou dans cette vie, qui font que, en fait, on ne reçoit que le résultat des causes qu'on a plantées, des causes qu'on a plantées. Que la faute revient à notre corps, en fait, c'est une façon. Que la cause revient à notre corps, c'est une façon de dire que si, par exemple, on nous frappe et qu'on a une. Alors attendez, comment c'est dit? Si on nous frappe avec un bâton, par exemple, dans une des stances de Shantideva, on dit bah, on ne va pas s'en prendre au bâton parce qu'on va comprendre que le bâton est manié par un homme et que cet homme est manié par la haine. Mais on peut aussi aller plus loin. Si on subit des inconvénients du bâton, une douleur née du bâton, ça ne vient pas seulement du bâton, ça vient aussi du fait qu'on a un corps. Et que le fait d'avoir un corps, d'avoir ce corps-là, est aussi le fruit de notre karma. si on a ce corps-là qui est très sensible et donc qui peut être blessé très facilement, qui peut subir de la douleur très facilement, c'est aussi le fruit de notre karma. Donc il ne faut pas seulement s'en prendre au bâton et aux émotions personnelles, il faut aussi s'en prendre au fait d'avoir un corps. Ensuite, il va aller plus loin en disant oui, mais la cause vient de notre corps et vient aussi de notre esprit. On explique que en fait, l'esprit ne peut pas être blessé par les coups, il ne peut pas être blessé par. C'est le corps qui subit les coups, ce n'est pas l'esprit. L'esprit ne peut pas être. L'esprit étant immatériel, il ne peut pas être blessé par exemple par les injures, il ne peut pas être blessé par les sons, il ne peut pas être blessé par les. Tant qu'on ne reconnaît pas l'essence de notre esprit, eh ben on s'identifie à notre corps. Et donc, du coup, c'est l'identification au corps qui fait que on subit la douleur des coups. Mais on pourrait dire, oui, mais on est blessé par les injures, on est blessé par par le fait d'être maltraité. Et en fait, si on regarde de manière plus profonde, on comprend que l'esprit n'est pas matériel, donc il ne peut pas être blessé par des injures, parce que les injures, au bout du compte, ce sont juste des sons, et que le son n'a pas le pouvoir de blesser l'esprit. Et ensuite, donc, Gampopa poursuit en disant que on comprend que tout le monde est coupable au même degré. Ben, effectivement, si on comprend ça, qu'on est responsable de notre corps, qu'on est responsable de notre karma, etc., bah on est aussi coupable de se mettre en colère que celui qui se met en colère contre nous. Ensuite, quand on va plus loin, Gampopa dit qu'en fait, ceux qui nous nuisent nous aident. Effectivement, si on est dans une démarche d'éveil, de pratiquer la patience pour s'éveiller, eh ben, on va avoir besoin de l'hostilité d'autrui pour nous permettre de pratiquer la patience. Donc, quelque part, ce sont le support de notre développement spirituel. Donc, ceux qui nous nuisent sont amenés à être considérés comme nos bienfaiteurs, entre guillemets. Voilà, et puis c'est ce qu'il dit après, qu'ils sont d'une grande bonté pour nous, que la patience réjouit les Bouddhas, que les bienfaits de la patience sont immenses. Les bienfaits de la patience sont immenses, c'est-à-dire la patience est un incontournable pour réaliser l'éveil. Voilà, je vais m'arrêter là. Et puis, si vous voulez. Si vous avez des questions, vous pouvez rallumer vos micros.
Attends.
Voilà.
Merci.
Bon, c'était un gros
Merci.
morceau, hein.
Oui. Ah bah là, les
Oui,
paramitas, oui, c'est un gros morceau, oui.
c'est gros morceau, oui.
Très intéressant.
Oui. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Une question,
Merci. Oula. Ça va?
allez-y pour les questions. Je sais pas. Non. J'avais une question sur la patience à l'égard du néant de la naissance, parce qu'il en est souvent parlé dans les textes, et on parle souvent de patience à l'égard du néant de la naissance. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Qu'est-ce que ça recouvre?
La patience à l'égard du.
Du néant de la naissance. Est-ce que c'est le fait que les choses en nature ultime n'ont pas vraiment les commencements, puisque c'est des causes et des conditions qui interagissent, c'est un peu comme l'arc-en-ciel dont tu nous avais parlé. Est-ce que ça peut être lié à quelque chose comme ça? C'est un
Oui.
terme sur lequel je suis tombé, donc je ne sais pas du tout qu'est-ce que
Oui, tout
toi
à fait. En fait, à un niveau plus profond, il va y avoir. On va appliquer cette compréhension des choses, de l'interdépendance de tous les phénomènes, on va l'appliquer à tout. Et non seulement cette façon de comprendre les choses va nous permettre de détruire tous les concepts qui nous lient au samsara. Et notamment, dans les concepts qui nous lient au samsara, on attribue une réalité à la naissance et à la destruction. On attribue une réalité au fait de naître et au fait de mourir. Et le fait d'attribuer une réalité à la mort fait qu'on va, on souffre au moment de la mort. Alors, j'ai des Larsen. Et... Voilà. C'est pénible, je m'entends parler.
Et il faut qu'on coupe tous nos micros, je pense.
Ouais, merci pour ta réponse.
Oui, c'est ça. En fait, dès qu'on ne parle pas, il faut qu'on coupe nos micros.
D'accord. Donc, en fait, voilà, ce que je disais, c'est que ensuite, on va aller plus loin, en fait, dans cette compréhension-là. Là, on a vraiment survolé la sagesse, mais n'empêche que c'est un incontournable. Il faut absolument qu'on en ait une compréhension, qu'on se familiarise avec cette façon de voir les choses, c'est-à-dire que les choses n'existent pas par elles-mêmes, elles existent en dépendance de causes et de conditions. Mais ensuite, il y a certains textes qui vont aller beaucoup plus loin dans cette affirmation et vont nous permettre de voir que tous les concepts qu'on se fait, tout ce qu'on affirme comme étant réel, en fait, ne sont que les fabrications de notre esprit. Et on va s'entraîner. Donc, par exemple, un des grands maîtres qui est très spécialiste de ça, c'est Nagarjuna, qui va du coup prendre tous les concepts auxquels on peut attribuer une réalité et va les démonter par cette démonstration-là. On va parler de démonter l'existence réelle du temps, de l'espace, de la naissance, de la production, de la mort, de la destruction, tous ces concepts, en fait, de comprendre que même s'ils nous apparaissent comme ça, ils ne sont que une fabrication de notre esprit et donc ils n'ont pas d'existence intrinsèque. Et ça va nous permettre, en fait, de nous en libérer. Et plus on va s'en libérer, plus on va pouvoir se libérer de la peur de ce qui est à naître, entre guillemets, et ce qui est à mourir. On va pouvoir se libérer de la peur de la mort, on va pouvoir se libérer de la crainte de tout ce qu'on peut, de tout ce qu'on pourrait perdre et auquel on est attaché.
Voilà. Merci à toi, c'était clair.
Rogan,
oui.
Une question. Donc j'ai mis en place avec la situation très difficile que j'ai en ce moment, la compassion, la tolérance, enfin du tout ce que tu avais dit le mois dernier aussi, j'ai très mis en place, c'est mon alentour et ma famille ne me comprend pas et me harcèle. Qu'est-ce que je peux faire et mettre en place? Parce que bon, pour moi c'est dur, parce que bon, tout mon alentour me harcèle, me dit je suis folle, je suis ça va pas, voilà. Et pourtant, en plus, ils dénigrent, n'est-ce pas, les bouddhistes, hein, comme d'habitude, hein, y a beaucoup de monde qui. Je te dis tout mon alentour. Alors, comment faire pour pouvoir être tranquille? Parce que j'ai aussi des menaces. Voilà. Comment faire pour pouvoir être entre les personnes qui sont. Enfin, bon, sur ce que tu as dit là. Parce que ce que tu as dit aujourd'hui, comment mettre en place pour que ça ne me touche pas? Je ne sais pas si tu comprends.
Alors, en fait, oui, je comprends très bien.
Ouais. Je suis désolée, hein, mais bon.
Non, y a pas de problème. Là où peuvent nous aider les enseignements, c'est de déjà nous... Alors, il ne va pas s'agir de nous dire dans les enseignements ce qu'on doit faire. Par contre, ce qui va nous s'agir, c'est qu'est-ce qu'on peut développer comme état d'esprit qui va nous permettre d'être le plus serein possible. Et ensuite, plus on sera serein, plus la manière de répondre à la situation elle sera adaptée, appropriée, et puis soit au pire, on évite les dommages collatéraux et on évite de nuire à la personne. Et puis au mieux, ensuite, si les circonstances le permettent, on peut aussi faire des choses pour améliorer la situation. Mais dans un premier temps, les enseignements sur la patience, c'est d'abord de nous faire comprendre que c'est à nous de décider de ne pas se laisser blesser par l'attitude des gens. C'est un choix. En fait, on ne peut pas demander aux gens d'être comme on voudrait. Et quel que soit le degré de notre avancement spirituel, ça sera toujours comme ça. C'est-à-dire même si on devient Bouddha, même si on devient un grand éveillé, même si on a profondément intégré les enseignements, on va rencontrer l'adversité. On va rencontrer des gens qui nous causent du tort, des gens qui veulent nous blesser, des gens qui veulent nous nuire, des gens qui sont pas d'accord avec nous, qui sont pas d'accord avec notre façon de faire, qui nous acceptent pas, qui cherchent à nous humilier. On va rencontrer ça tout le temps. C'est quelque chose qu'on ne peut pas... c'est important de le comprendre, en fait. C'est important de comprendre qu'on ne peut... Le but des enseignements n'est pas d'espérer qu'on va pouvoir se mettre à l'abri de ça. Parce que si on le comprend bien, bah, du coup, ça va nous permettre de le voir comme quelque chose de normal, entre guillemets. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est agréable, mais en tout cas, c'est normal. C'est-à-dire, c'est pour tout le monde, c'est pareil. On peut se barrer à l'autre bout de la planète, on peut s'enfermer dans une grotte, on peut se mettre à l'abri, aller dans un monastère et penser qu'on va être à l'abri de ça. C'est impossible. On va toujours... Le fait est qu'on n'a aucun contrôle justement sur les causes et les conditions qui se mettent en place autour de nous, qui font que à un moment donné, on va avoir affaire à quelqu'un qui ne peut pas nous encadrer ou qui vraiment veut nous causer du tort. Et ça peut aller très loin. Mais personne n'est à l'abri de la violence, que ce soit du harcèlement, que ce soit de la guerre, que ce soit même si on peut avoir des répits, même si on peut jouir de périodes dans lesquelles justement on est préservé de ça, comprendre que si on en est préservé, c'est pas un acquis. C'est juste des causes et des circonstances. Et ces causes et des circonstances, elles vont changer. Et si on le comprend clairement, ça va nous permettre de voir que si on souhaite être heureux, si on souhaite être en paix, ce n'est pas fondamentalement ça ne viendra pas du fait que la situation s'améliore à un moment donné, parce que même si elle s'améliore à un moment donné, et ben ça changera. Ça va pas venir du fait que les gens vont finir par être tous sympas, ou ça va vraiment, c'est un choix de notre part de décider de ne pas nous laisser blesser, de ne pas nous laisser perturber parce que les gens disent et font ci, disent ça, s'ils font ça, c'est qu'il y a des causes et des circonstances qui font qu'ils disent ça, qu'ils font ça, et que quelque part, il y a beaucoup de choses, on ne sait pas en fait, on ne sait pas pourquoi. On ne connaît pas leur histoire, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de vivre en ce moment, on ne sait pas ce qu'ils ont vécu, on ne sait pas tout ce qui se passe en fait dans leur esprit et qui font que ils se manifestent comme ça. Mais l'idée, c'est de ne pas le prendre pour quelque chose de personnel. C'est-à-dire, si on comprend que il y a plein de facteurs qui font que cette personne se met en colère contre nous, qu'elle nous cause du tort, ne pas le prendre de manière personnelle. Ça serait déjà un super point de départ pour justement se sentir plus en paix, de comprendre qu'il n'y a pas de préméditation derrière leurs actes, que ce n'est pas personnel. Ce n'est pas à nous qu'ils en veulent précisément.
D'accord. Merci, Organ.
Merci alors, de ta réponse. Tu as parlé de l'adversité tout à l'heure, que dit que jamais on pourra pratiquer cette patience s'il n'y a pas l'adversité des autres. Est-ce que l'adversité, même sans compter les autres, les difficultés de la vie, le rapport à la nature, à ses propres émotions, c'est déjà pas un terrain d'exercice ? Alors j'ose imaginer si tout le monde pratiquement était des bodhisattvas. En fait, c'est impossible que tout le monde devienne des bodhisattvas. Il faudra toujours qu'il y ait besoin de cette adversité avec des aides dont on a l'illusion qui nous nuisent.
En fait, oui. L'adversité, effectivement, elle est, la patience conditionne l'adversité. C'est-à-dire, tant qu'il y a de l'adversité, ça devient le support à la patience. S'il n'y a pas d'adversité, il n'y a pas de patience. Mais dans la paramita de la patience, à partir d'un certain moment donné, l'adversité n'est plus perçue comme adversité. C'est-à-dire il y a une progression dans le chemin. Il y a adversité parce que on conçoit les choses, par exemple, quelqu'un qui nous cause du tort, c'est parce qu'on le voit comme un problème qu'il y a pratique de la patience. Si on voit les choses de manière plus profonde, si on voit derrière celui qui nous cause du tort la réunion de causes et de circonstances, et qu'il n'y a plus raison de se mettre en colère contre justement, simplement cette réunion de causes et de circonstances, qu'il n'y a plus une victime et un persécuteur, alors on arrive à la paramita de la patience, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de patience du tout.
D'accord.
Vous savez, d'accord. C'est un peu comme si, je ne sais pas, si on a affaire à quelqu'un qui, quand il est en colère, il casse des assiettes. Voilà, un peu le cliché, la personne, à chaque fois qu'elle est en colère, elle se met à prendre des assiettes et puis elle casse des assiettes. De notre point de vue, peut-être, on pourrait se dire, mais enfin, je comprends qu'on puisse mettre en colère, mais c'est ridicule de casser des assiettes. Ça ne solutionnera en rien le problème, ça ne fera pas avancer le schmilblick, et puis même, en fait, ça va coûter cher, quoi. Il faudra en racheter après.
Voilà, c'est ça.
Si on en est quelque part à... Si on en est là, c'est-à-dire si malgré le fait que on a notre chemin, etc., mais qu'au bout d'un moment, on abandonne l'idée de casser des assiettes, cette option n'apparaît plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a plus de raison. Peut-être que du point de vue de celui qui casse des assiettes, elle pourra nous dire, dis donc, je ne sais pas comment tu fais, toi, pour ne pas casser des assiettes, mais en colère.
L'adversité n'a pas d'existence propre non plus. Ouais.
L'adversité n'a pas d'existence propre non plus. L'adversité est conditionnée par l'ignorance. Mais là, on a un degré très profond. Hein.
Mais c'est
important de le souligner, oui. L'adversité est conditionnée par une vue erronée.
Voilà. Je peux ?
Oui.
mais l'adversité, elle serait aussi conditionnée par la réalité qu'on se crée, puisque selon le karma, la réalité qui est autour de nous, c'est la réalité que l'on se crée autour de nous pour pouvoir progresser, avancer dans cette vie-là qu'on est en train de vivre. Donc voilà, l'adversité est une des situations test en face desquelles on doit se retrouver, on se retrouve de façon à régler un certain nombre de problèmes qu'on est venu régler dans cette vie-là, non ?
La réalité...
On ne peut pas concevoir les choses comme ça ?
Je ne sais pas si j'ai bien compris ta question, José, mais peut-être je peux la... Est-ce que tu pourrais la reformuler ?
Ce n'est pas vraiment une question, je voudrais connaître ton point de vue par rapport à ce que je viens... par rapport à ce que je viens de dire, c'est-à-dire que moi je pense que la réalité qui est autour de nous, c'est celle qu'on crée autour de nous, c'est celle qu'on a créée autour de nous.
Pas forcément.
Parce qu'on vient avec un certain nombre de paramètres qui proviennent probablement de notre karma et de ce qu'on est venu faire ici, dans cette vie ici. Donc pour moi, l'adversité, ça fait aussi partie des situations test pour tester, comme tu disais d'ailleurs tout à l'heure. Tester notre patience, tester un certain nombre de choses qu'on voudrait ou qu'on tend à mettre en place ou qu'on voudrait mettre en place pour progresser.
Absolument, voilà. L'adversité peut être perçue comme un baromètre, quoi, à condition qu'on décide de se dire, au lieu de voir l'adversité comme un obstacle, de le voir comme une opportunité, c'est-à-dire de voir comme un moyen, effectivement, de se tester, de voir où est-ce qu'on en est sur le chemin, qu'est-ce qu'il faut travailler, à condition qu'on décide de travailler avec l'adversité. Ça nous appartient, mais effectivement, ça peut être un bon baromètre. Ouais.
D'accord. Non, mais ça ne fait pas partie des situations test qu'on se crée plus ou moins, qui sont créés autour de nous par rapport à notre choix d'être venu là, à ce moment-là, dans cette zone géographique-là, avec ces parents-là, avec cette... Voilà, en tant que... au niveau du karma, je parle. Voilà.
Oui, en fait, disons que l'adversité est le résultat exact de notre voilà. karma. C'est-à-dire, c'est voilà. pour ça que parfois on a l'impression que c'est comme s'il y avait une sorte de complot, quoi, de coup monté,
oui,
tellement les choses ont l'air de s'imbriquer de manière... ce qu'on appelle les synchronicités. Mais en fait,
c'est
les
ça.
Synchronicités, c'est juste que les choses qu'on a sur notre chemin reflètent avec exactitude ce qu'on a planté.
C'est ça, oui. Mais pas forcément ce qu'on a planté là, ce qu'on a pu planter avant.
Oui, 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 ça, on ne sait pas quand est-ce
D'accord.
qu'on l'a planté, mais en tout cas, c'est le fruit d'une cause, quoi.
D'accord, donc on est bien d'accord là-dessus. D'accord, je voulais avoir vraiment ton.
Ouais. Alors, je nuance quand même, je nuance avec ça en disant que, parce que parfois on pourrait comprendre un peu rapidement en disant voilà, t'es harcelé, t'es ton karma, t'es malade, c'est ton karma, tu t'es fait violer, c'est ton karma. Et c'est pas, c'est,
oui.
ça serait une manière très erronée de comprendre le karma.
Oui.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas tant la maladie qu'est le karma. Le karma, c'est comment on vit la maladie, ne serait-ce que de le vivre comme maladie. Rien que le fait de vivre la maladie comme étant la maladie est un karma. C'est-à-dire que la maladie, c'est juste un déséquilibre des quatre éléments dans le corps, mais on peut très bien imaginer, selon notre karma, que quelqu'un puisse vivre la maladie sans se sentir malade. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est juste une imputation qu'on met aux choses. Je suis malade et puis en plus, je souffre d'être malade. Bah, ce n'est pas la maladie qu'est le karma. C'est comment on vit la maladie, comme étant un problème ou pas.
D'accord. Donc comment on vit la colère, comment on vit en fait tout ce qu'on a autour de soi.
Ouais, c'est ça. Ouais.
C'est ça le karma.
Oui, et voilà. Et c'est par exemple le fait d'être pauvre n'est pas un karma. Il y a des gens qui sont pauvres et qui sont très heureux, et puis il y a des gens qui sont très riches et qui sont pas heureux du tout. C'est pas la pauvreté n'est pas un karma négatif. Par contre, comment on vit la pauvreté, c'est-à-dire se sentir pauvre. Qu'on soit riche ou pas d'ailleurs, ça c'est notre karma, dans notre façon de le vivre. Être pauvre, c'est avant tout un karma qui vient de l'esprit. Ça ne reflète pas forcément nos possessions matérielles. Bien sûr, selon certains critères, on pourra dire oui, ce critère société, on pourra dire oui, cette personne elle est pauvre, oui, cette personne elle n'est pas, ou cette personne elle est riche, mais en fait, du point de vue de la personne, être pauvre ou riche, c'est son karma, ça dépend de son karma, c'est comment elle se perçoit. Et il y a des gens qui, que la société considère comme très pauvres qui ne se sentent pas du tout pauvres. Voilà.
Merci. Merci.
Merci.
Voilà, bah, si vous n'avez pas d'autres questions.
Moi, j'aurais une question technique.
Oui.
Tu as parlé d'un texte que tu allais nous envoyer, celui qui a fait un peu bugger à un moment donné.
Ah oui.
Ça sera sur Zoom ou est-ce qu'on le trouvera sur le site de Luce?
Je peux le mettre ici dans les commentaires. C'est-à-dire que quand je mettrai fin à la réunion, je ne vais pas éteindre la réunion. C'est-à-dire tous ceux qui veulent le télécharger, vous pourrez le télécharger. D'ailleurs, je vais le mettre tout de suite. Vous pourrez le télécharger dans les commentaires. Vous allez me dire si vous le voyez. Donc c'est juste un extrait de la marche vers l'éveil, c'est l'extrait sur la patience. Alors vous allez me dire si vous voyez.
Et les commentaires, on les trouve où?
Alors les commentaires de la marche vers l'éveil,
c'est dans tout ce que les gens parlent, c'est dans les conversations.
Tu parles des commentaires de la marche vers l'éveil.
Il n'y a pas de bouton commentaire a priori.
Ah oui, pardon, c'est dans le. Alors ça s'appelle discussion. Vous voyez l'onglet discussion? Moi je suis sur.
Moi j'ai pas de bouton commentaire, j'ai pas d'endroit pour trouver.
Oui.
Pascal, c'est dans converser en bas.
Converser. Converser.
Toucher ici pour converser.
Voilà, c'est ça. Là, tu vas avoir la conversation.
D'accord.
Ça sera bien de le mettre sur le site, quoi.
Après.
Ce que je vous propose, c'est que on passe. Oula. Moi, je vous entends plus. Je vous vois plus là. Ça a l'air de bloquer.
Ben oui.
A perdu Organ.
Oui.
Bonsoir tout le monde. Merci Organ.
On n'a pas perdu Organ. Il nous laisse encore quelques minutes entre nous. C'est lui qui est parti de la réunion comme il l'a annoncé.
Non, non, je suis là.
Merci.
Mais le texte. Le texte.
Je suis toujours là. J'ai juste une coupure.
Voilà. On était perdus. Hein.
Écoutez, ce que je vous propose, c'est de faire la dédicace. Et puis, ceux qui veulent rester discuter après, bah, je laisserai la réunion ouverte.
Ouais.
Est-ce que tu peux mettre le lien, Organ?
Merci à tous pour ce moment.
Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le mariage. Et sans l'exclusion de s'habiller en cette époque. Vous êtes.
Merci Organ.
Merci
Organ.
Merci tout le monde.
Merci
Organ. Merci beaucoup Organ.
Merci, au revoir.
Merci Organ.
À bientôt.
Merci, au revoir.
À bientôt.
Allô, merci Organ.
Merci.
Je vois rien. Au revoir à tous.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir Pablo, au revoir Marie, au revoir à tous ceux de Meudon.
Au revoir Daniel.
Je ne vous vois pas parce que...
Au revoir à tous.
Au revoir. J'ai réussi à vous avoir, c'est bien. Je suis contente. Au revoir à tous. À bientôt.
Merci Angèle, vous vous enseignez très clair. Merci. Salut Daniel, salut Martine, salut
Anna.
Salut Daniel.
Courage à toi.
À bientôt.
Au revoir Daniel.
Au revoir.
Au revoir
Daniel.
Portez-vous
bien.
Vous aussi.
À bientôt de vous revoir, ça me tente.
Oui.
À bientôt, on va vous revoir aussi. Hein. Cette fois-ci.
On repasse en Lorraine, ça va bien pour revenir à Luce.
Ouais. C'est ça. C'est vraiment
revenir à Luce.
Salut Nadia.
Salut. Bonjour tout le monde. Mm.